La compagnie, c'est parti. Nous traversons aujourd'hui l'Europe avec l'écrivain aventurier Giacomo Casanova.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Giacomo Casanova n'avait pas l'esprit de système. Sa devise « Sequere Deum » signifie « suivre le Dieu », c'est-à-dire la fortune. Et il a fait sa force de savoir tirer parti des aléas de la vie, se souvenant que le bien sort toujours du mal, comme le mal sort toujours du bien. Sa vie, c'est Maxime Rovert qui nous l'a raconté lundi dernier au cours d'une émission à retrouver bien entendu sur notre site. Au-delà de la recherche du plaisir qui est une matière première de son œuvre et la boussole de son existence, Casanova a été toute sa vie un homme de lettres, d'abord par des adaptations théâtrales, puis par des essais de tout type, où s'exprime notamment son art de la digression. Il va ensuite se consacrer au roman, puis à l'autobiographie, comme nous l'avons vu, c'était mardi, avec Jean-Christophe Higalens. Et puis demain, nous terminerons notre série par un entretien avec l'écrivaine et essayiste Chantal Thomas. Elle nous parlera notamment du rapport de Casanova à Paris, et de l'épisode de La Charpillon, cette femme qui faillit le mener au suicide. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer un Casanova aventurier et entrepreneur, nous sommes avec Guillaume Simion, enseignant-chercheur à la Sorbonne et auteur d'un essai intitulé « Casanova dans l'Europe des aventuriers » publié en 2016 aux éditions Classique Garnier. On lui doit également l'article sur « Casanova entrepreneur » dans les actes d'un colloque tenu en 2013 et également paru chez Classique Garnier. Alors avec lui, nous allons parler de cet écrivain qui fut aussi un manufacturier, un financier, un homme en quête d'argent et de grands coups, et qui a vécu jusqu'au bout dans le principe de dépense qui était le sien. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Belle Thérèse, tu me supposes riche, je ne le suis pas. Je n'aurai plus rien quand j'aurai fini de vider ma bourse. Tu me supposes peut-être homme de grande naissance, et je suis d'une condition ou inférieure ou égale à la tienne. Je n'ai aucun talent lucratif, aucun emploi, aucun fondement pour être certain que j'aurai de quoi manger dans quelques mois. Je n'ai ni parents, ni amis, ni aucun droit pour prétendre, et je n'ai aucun projet solide. Tout ce que j'ai, à la fin, n'est que jeunesse, santé, courage, un peu d'esprit, des sentiments d'honneur et de probité, et quelques commencements de bonne littérature. Mon grand trésor est que je suis mon maître, que je ne dépends de personne, et que je ne crains pas les malheurs. Mon caractère plie à être dissipateur. Voilà ton homme. Réponds.
Un extrait d'Histoire de ma vie lu par Éric Dufay. Bonjour à vous, Guillaume Simion.
Bonjour.
Alors, tu me supposes riche, je ne le suis pas, mais j'ai pour moi la jeunesse, écrivait Casanova à son amie Thérèse. Il se présente donc à elle comme un vrai personnage d'aventurier qui ne cherche pas à assurer ses arrières, mais qui a au contraire pour désir de vivre le plus intensément possible. C'est pour cela que c'est un aventurier, Casanova.
Et oui, cette manière de se donner tout entier au présent, d'être dans ce grand principe de dépense que vous avez évoqué, qu'il évoque aussi dans cette belle lettre à Thérèse, c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est qu'un aventurier ? Une bonne définition, c'est celle que propose Sainte-Beuve quand il rend compte des mémoires de Casanova dans les années 1830, quand elles paraissent. Il écrit « Un aventurier, c'est quelqu'un qui ne dit jamais non aux choses. Mmh. » Et ça, pour moi, c'est la définition magistrale.
C'est aussi peut-être quelqu'un qui se fixe des buts immenses et qui sont souvent trop grands pour lui.
Exactement. Ça, c'est un autre auteur qui lui-même était bien aventurier, qui a écrit sur eux, qui est André Malraux, qui n'a pas publié un essai qui s'appelle Le démon de l'absolu, qu'on trouve dans ses œuvres complètes en Pléiade. Il dit que ce qui caractérise l'aventurier, c'est le fait qu'il se donne des buts immenses sans avoir les premiers moyens de les atteindre. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve toujours chez Casanova.
Mais ça peut être aussi un homme qui va au-devant de l'inconnu pour précisément connaître et ensuite raconter tous les milieux de la société.
Exactement. Étymologiquement, aventurier, c'est ad et venire, c'est aller au-devant du monde. Et Casanova, c'est vraiment ça. C'est la découverte de fond en comble des sociétés européennes du XVIIIe siècle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le tableau qu'il embrosse touche d'une même manière les auberges, les routes, les carrosses, et puis les cours, les grands. Et cette homogénéité, elle est assez extraordinaire, elle est sans pareil en réalité dans cette gamme des mémorialistes du XVIIIe siècle.
Finalement, Casanova, c'est un rapport à l'expérience. La vie est une succession d'expériences.
Exactement. C'est une manière de surexister, de poursuivre comme ça cette image de lui-même, que ce soit en financier, que ce soit en entrepreneur ou que ce soit en homme de lettres.
Donc lui se considérait comme un aventurier, mais vous expliquez, Guillaume Simian, qu'un certain nombre de ses biographes récusaient ce terme pour lui.
Il a un rapport très compliqué avec le mot lui-même aventurier. Dans ses propres textes, il se l'emploie. Par exemple, dans l'histoire de ma fuite des plombs, quand il raconte sa fuite des prisons de Venise, il dit voilà, je suis parti des plombs et je suis allé à Paris où je me suis mis sur la carrière d'aventurier qui m'a bien réussi parce que la fortune sourit à ceux qui la chérissent. Je paraphrase. Mais en même temps, un peu plus tard, il nous raconte dans l'histoire de ma vie que alors qu'il est en Pologne, une gazette annonce son arrivée. Giacomo Casanova, le fameux aventurier, arrive en ville. Et à la première occasion, il fait 200 kilomètres de détour pour aller rosser le gaztier. Il débarque dans son bureau et le massacre à coups de canne parce qu'il avait osé.
Le massacre
à coups de canne. C'est le côté un peu sombre de Casanova aussi parfois. Et parce qu'il avait osé l'appeler aventurier. Donc voilà, c'est ce grand paradoxe. Et puis ce paradoxe qui va durer, le mot aventurier en français, c'est un mot qui a des connotations complexes. Même aujourd'hui, où on est pourtant dans une époque qui valorise beaucoup le risque, tout cet univers-là, l'exploration, je suis pas sûr qu'il soit à 100% positif dans toutes les acceptions. Et pendant une grande partie du XXe siècle encore, on doit se justifier quand on l'emploie.
Alors c'est peut-être tout le paradoxe de Casanova, qui peut-être aimait qu'on le considère comme un aventurier dans certains cercles, et puis dans d'autres cercles, peut-être les cercles économiques, on va le voir au cours de cette émission, il ne souhaitait pas être considéré justement comme un aventurier.
Et oui, c'est toute la question du crédit. Le crédit, ça veut dire il croit, il ne faut jamais l'oublier. Et donc on a tout intérêt à rester justement crédible quand, comme Casanova, on vit d'expédients et on vit essentiellement aux dépens des autres de différentes manières.
Alors, les aventuriers, il les a tous connus. Ça, il vivait dans une société qui était une société d'aventuriers.
Intus et incute, comme il dit, en paraphrasant l'épigraphe des Confessions de Rousseau, il les a connus de fond en comble, en chair et en os. C'est assez extraordinaire, cette petite caste des aventuriers. Ils sont peut-être une cinquantaine de grands aventuriers du XVIIIe siècle. Il en a connu peut-être les deux tiers. Donc on a vraiment une espèce de petite micro-société qui se croise, qui parfois se dépanne, qui parfois entre en rivalité, dont les jeux de pouvoir sont tout à fait fascinants.
Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces aventuriers du XVIIIe siècle?
C'est très difficile de trouver des critères absolus. Certains sont auteurs, certains écrivent, parce que vous avez au XVIIIe siècle cet immense idéal de l'homme de lettres. Qu'est-ce qui est glamour au XVIIIe siècle? C'est d'être un homme de lettres ou d'être un philosophe, c'est ça qui fait rêver. Et Casanova, comme les aventuriers, sont à la recherche de la lumière, de la notoriété, de la reconnaissance. Et à la limite, c'est très actuel, hein, peu importe comment ils l'atteignent. Si Casanova avait dû réussir comme manufacturier, il aurait été très content. Comme homme de lettres, idem. Donc vous avez ce côté-là, le côté volonté d'exister comme homme de lettres. Vous avez une éducation quand même de qualité, qu'on retrouve à chaque fois, très souvent dans des collèges jésuites à l'époque, et qui permet comme ça d'entrer dans toutes les strates de la société européenne.
Alors là, il faut peut-être faire une petite pause, parce que sur la scolarisation de Casanova, il y a sûrement des choses à dire. Il a fait quel genre d'études, Casanova ?
Casanova, il a fait des études de droit. Il prétend avoir un doctorat en droit à la fois civil et en droit canon. On n'en a jamais trouvé trace. Je ne me hasarderai pas à dire qu'il a menti, mais ce n'est pas complètement impossible non plus. Et puis, il a fait des études, vous l'avez évoqué hier, je crois, pour devenir ecclésiastique. Vous savez, il tente d'abord le noir plutôt, ensuite le rouge. Il va tout essayer en réalité, sans que vraiment rien accroche, parce qu'il a ce tempérament vagabond des aventuriers.
Mais alors, est-ce que c'est durant ses études qu'il acquérerait un certain savoir-vivre qui va lui servir dans sa carrière d'aventurier? Parce que l'aventurier, c'est l'aventurier des salons aussi.
Je dirais que le savoir-vivre, il l'acquiert dès sa prime enfance. Parce que dans l'entourage de sa mère, cet entourage très brillant, vous aviez parlé de Baffo lundi, de ses lettrés, de cet univers du théâtre vénitien, pour exister, il doit briller. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et ce qu'il apprend en réalité dans ses études, c'est assez triste, c'est plutôt la survie. On le met en pension et lui qui vivait entouré de l'amour de sa grand-mère, complètement débordant, une vie extrêmement privilégiée, il arrive dans cette pension, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui enlève sa cuillère en argent. Mmh. Et alors là, impossible pour Casanova, il va devoir apprendre à lutter pour la survie.
Alors quand il parle de ses condisciples de l'université de Padoue, un petit peu plus tard, il les présente presque tous comme des malappris, des libertins, des joueurs, des coureurs, des ivrognes. Donc là encore, ça n'est pas là qu'il a pu se faire au savoir-vivre des salons.
Le savoir-vivre aristocratique, il l'observe de loin dans sa prime jeunesse. Et ensuite, il va le rechercher en permanence. Casanova, on peut le dire, et je crois qu'il a un vrai travail une seule année dans sa vie. C'est quand il est violoniste dans sa prime jeunesse. Ensuite, il va rencontrer Bragadine, devenir son protégé, et en gros, il ne retravaillera plus jamais. Ce sera toujours soit vivre de bien de ses amis, d'escroquerie, parfois du jeu. Et donc, quand il retrouve Bragadine, il rentre à nouveau dans la meilleure société vénitienne, et c'est là que ça va commencer.
J'avais acheté une voiture qu'on appelle un solitaire à trois glaces, à deux roues, à brancard, avec des ressorts à lamadis, doublée de velours cramoisi, presque neuve. Je l'ai eue pour 40 louis. J'ai envoyé à Paris deux fortes malles par la diligence, n'ayant gardé dans mon porte-manteau que mon nécessaire, et j'allais partir le lendemain, en robe de chambre et en bonnet de nuit, décidé à ne sortir de mon solitaire qu'au bout de 58 postes sur le plus beau chemin de toute l'Europe.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors s'il y a caractéristique commune de tous les membres de cette société des aventuriers à laquelle appartient Casanova, c'est bien le voyage. Il est toujours ou presque en mouvement durant sa vie, plus évidemment au début que dans ses dernières années. En quoi c'est très important, en quoi c'est même caractéristique de l'aventurier?
Le mouvement des aventuriers, il est double. Et un côté est parfois plus accentué que l'autre, ça dépend des époques. C'est à la fois, comme vous le dites, le mouvement géographique, mais aussi le mouvement social. Ce sont des gens qui sont épris d'un mouvement vertical dans la société. Casanova veut parvenir, et pour parvenir, il va jouer un peu toutes les cartes. Parfois, il va devoir fuir. Quand il quitte Paris, par exemple, pour la première fois, il a fait une faillite frauduleuse. Il arrange bien les choses dans l'histoire de ma vie, mais voilà, il doit partir parce qu'il risque d'être pendu, tout simplement. Parfois, il poursuit des opportunités.
Donc, il est parfois un peu aventurier malgré lui.
Bien sûr, c'est toujours, vous savez, une de ses devises, c'est volentem ducit, nolentem trahit. Le destin mène ceux qui le suivent et tire ceux qui ne veulent pas le suivre. Et c'est exactement ça. Il va de lui-même vers les endroits où il pense pouvoir être employé, c'est-à-dire les nouvelles capitales montantes de l'Europe, Berlin, Saint-Pétersbourg, pour essayer de trouver des emplois, ce rêve d'un poste de secrétaire, d'un conseiller des princes qui va l'animer pendant une très très grande partie de sa vie.
Donc il vit vraiment l'Europe, peut-être encore même davantage qu'aujourd'hui, ou en tout cas davantage qu'au XIXe siècle.
Vous savez, vous avez ce très vieux débat qui consiste à se demander s'il existe une culture européenne ou si la culture européenne est la somme des cultures nationales. Moi j'ai la conviction qu'il existe au moins un vrai Européen, et c'est Casanova. Deux avec le prince de Ligne, son vieil ami, mais ça me semble irréfutable.
Alors, si Casanova est sans cesse en mouvement, c'est peut-être aussi parce qu'il ne se sent pas vraiment d'attache familialement. Venise, c'est sa patrie, mais est-ce que c'est vraiment l'endroit, même s'il souhaitera y revenir, qui le fixe ?
qui le fixe, en tout cas psychologiquement, oui. Il a ce rêve de parvenir. Il serait prêt à aller n'importe où. Il tente Londres, il tente Paris, l'Espagne, mais il y a toujours ce rêve de retourner à Venise, parce que c'est peut-être là aussi qu'il a été le plus heureux dans sa jeunesse. Vous savez, dans les 3 tomes de l'histoire de ma vie, le premier, les 1000 premières pages, sont de très très loin les plus joyeuses. Et ce sont les années vénitiennes. Donc il y a ce rêve de remonter à la source qui l'anime, mais qu'il n'atteindra jamais. Son retour à Venise est en réalité très triste.
C'est un chevalier errant.
Un chevalier errant, oui. Vous savez, c'est justement le prince de ligne. Quelqu'un lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ces mémoires de Casanova? Et il répond, mais c'est à la fois les mémoires d'un chevalier et ceux du juif errant. Donc on a cette image de l'errance perpétuelle d'un côté, et puis de l'autre côté, cette quête chevaleresque d'un but démesuré.
Alors qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être un bon aventurier? Est-ce qu'il faut être par exemple un bon caméléon?
Bien sûr, une des caractéristiques de l'aventurier, c'est de pouvoir se faufiler dans toutes les strates sociales, et donc il faut pouvoir prendre l'habit, parfois très concrètement, de l'endroit où on veut aller. Et alors ça ne marche pas toujours. En réalité, très souvent, on les voit venir de loin, et le prince de ligne, toujours lui, qui a beaucoup aimé Casanova mais a toujours voulu tenir ses distances, on a un des plus grands seigneurs de l'Europe et puis celui qu'il considère comme un parvenu, qui va dire voilà, Casanova, de toute façon, les seules choses qu'il ignore, c'est celles qu'il croit savoir, le bon goût, la politesse, paraître. C'est une manière de marquer la distance entre les aristocrates et ce qu'il aurait aimé être, Casanova, mais qu'il n'est jamais tout à fait parvenu à être.
Donc il n'a jamais été pleinement reconnu?
Non.
Parce que...
L'univers aristocratique, les cours qu'il fréquente, reçoivent Casanova, mais comme une sorte de curiosité. Il le reconnaît lui-même. Il reçoit un ordre papal tout à fait mineur, et il le fait monter en sautoir avec un ruban en soie, il met des diamants sur la croix, enfin, elle est méconnaissable, et les gens se moquent. Lui-même le reconnaît dans ses mémoires, mais il dit « je m'en moquais, je voulais paraître ». Et donc on a ce personnage qui est à la fois fantasque, plus grand que nature, et on s'ennuie tellement dans l'Europe du XVIIIe siècle que ces gens mais sont les bienvenus.
Donc lui pense en imposer, parce que c'est ça aussi, oui. L'aventurier doit pouvoir en imposer, mais en réalité c'est un peu à ses dépens qu'il en impose.
Il en impose, sauf peut-être aux strates les plus élevées de la société, dans lesquelles il aimerait justement s'imposer. Et c'est ça peut-être un des malheurs de sa vie.
Alors est-ce qu'il est plus crédible quand il se présente comme un financier par exemple?
Plus crédible, je ne sais pas.
Il n'est jamais très crédible alors Casanova, on dirait.
Crédible, en fait, crédible totalement non. Il n'est jamais totalement crédible. Il aimerait avoir la faveur des ministres. En France, il courtise Choiseul. Choiseul le voit venir de loin. Il a pris ses renseignements à Venise. Il sait qu'il vit d'expédients, qu'on peut pas vraiment se fier à lui. En revanche, on peut lui confier des missions, peut-être d'information, d'espionnage. C'est ce qui va se passer. Et puis il y a cette idée que beaucoup d'aventuriers du XVIIIe siècle ont, c'est d'être un réformateur. Les États, à l'époque, sont à la recherche d'une grande quantité d'argent, parce que guerre, parce que invention de l'État moderne aussi. Et donc, des tas de projets, de nouveaux impôts sont lancés. Casanova dit, par exemple, qu'il a inventé l'impôt sur les successions.
Ah bon, on va écouter ça, justement.
L'abbé de Bernice, à qui je faisais régulièrement ma cour une fois par semaine, me dit un jour que le contrôleur général lui demandait souvent de mes nouvelles et que j'avais tort de le négliger. Il me conseilla d'oublier mes prétentions et de lui communiquer le moyen dont je lui avais parlé d'augmenter les revenus de l'État. Je faisais trop cas des conseils d'un homme auquel je devais ma fortune pour ne pas les suivre sans objection. Je me rendis donc chez le contrôleur et, plein de confiance dans sa bonne foi, je lui donnai mon projet. Il s'agissait de promulguer une loi en vertu de laquelle tout héritage qui ne serait pas de père en fils fournirait à l'État le revenu total d'une année. Toute donation faite entre vivants et passée par devant notaire devait être assujettie à la même redevance. Il me semblait que cette loi ne devait déplaire à personne, puisqu'un héritier pouvait s'imaginer n'avoir hérité qu'un an plus tard. Le ministre en jugea comme moi, me dit que mon projet n'offrait aucune difficulté, le mit dans son portefeuille secret et m'assura que ma fortune était faite. 8 jours après, il fut remplacé par Monsieur de Silouette, et quand je me présentai à ce nouveau ministre, il me dit froidement que lorsqu'il serait question de promulguer cette loi, il me ferait avertir. Cette loi parut en France 2 ans après, Et on se moqua de moi quand, m'en étant déclaré l'auteur, je m'avisai de demander la récompense à laquelle j'avais droit.
La compagnie des auteurs avec cet extrait d'Histoire de ma vie, que Casanova tout de même ait proposé la mise en place de nouveaux impôts, c'est un point plutôt inattendu pour ses lecteurs, Guillaume Simian.
Vous savez, Casanova, c'est un homme qui est plein de paradoxes, et quand on découvre le vrai Casanova dans le texte, et armé du mythe que tout le monde a, dont tout le monde a entendu parler, eh bien, on découvre un homme inattendu finalement. Il propose effectivement de créer cet impôt, par exemple. Il propose aussi d'innombrables projets de loterie, parce que c'est ce qui est très à la mode à l'époque en Europe.
Alors, on peut raconter justement la loterie parisienne.
La loterie parisienne. Ce qui s'est passé, c'est que à Gênes, il y avait un système d'élection par tirage au sort. En réalité, les gouvernants de Gênes, chaque année, étaient choisis par tirage au sort. On tirait 5 aristocrates dans les familles dominantes de la ville. Et le peuple avait pris l'habitude de parier sur les noms qui allaient sortir. C'est le loto de Gênes. Les Génois ont eu le génie d'institutionnaliser cette pratique qui était une pratique informelle. Et ça leur a rapporté une des sommes phénoménales. Donc tous les autres États européens ont pris bonne note de ce phénomène, et donc les aventuriers se sont mis aux propositions de loto. Ce qui est intéressant, c'est que le loto à l'époque, ça n'a l'air de rien, mais c'est appuyé sur de la science de pointe, c'est le calcul de probabilité. Nous, on vit dans un univers probabiliste. On est habitué à se dire, on a une chance sur deux. Au XVIIIe siècle, personne ne pense comme ça. Mmh. C'est quelque chose qui ne concerne que les mathématiciens, des gens comme Montmort, qui travaillent sur ces sujets-là. Et un petit nombre de gens, d'aventuriers, qui vont s'y intéresser aussi. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un avantage aux cartes, tout simplement. Casanova, c'est quelqu'un qui, il ne faut jamais l'oublier, aime autant les lettres que les chiffres.
C'est un mathématicien, on peut aller jusque-là ?
Il rêve d'être reconnu sur le tard comme mathématicien. Il travaille d'arrache-pied pendant des années sur deux théorèmes, notamment ce fameux problème de la duplication du cube, sans aucun succès réel malheureusement, mais il a ce rêve d'être reconnu comme mathématicien, d'associer son nom à un théorème. Et parce qu'il a travaillé les mathématiques toute sa vie, à la fois pour faire de faux oracles, c'est un génie du calcul mental, il fait des pyramides écrites où il fait des additions qui semblent rationnelles pour arriver à transformer les chiffres en lettres avec une virtuosité qui est incroyable. Et puis, il y a ces probabilités pour les cartes.
Donc le jeu, que ce soit pour les cartes comme pour la bourse, les finances, on parle de la bourse parce que ça commence tout juste à ce moment-là à exister. C'est ça qui relie finalement tous les domaines d'activité de Casanova ?
Exactement, il faut jamais oublier la première bourse de Paris. Elle apparaît à l'hôtel de Soissons, qui était une maison de jeu jusque-là, dans les
jardins.
Donc
à l'époque, on ne fait pas vraiment la différence.
Il n'y a aucune différence entre les deux, parce que fondamentalement, on est dans le même type de démarche psychologique, d'une part, et puis aussi, on est dans le même type de rapport au risque. Donc, il y a un lien qui est absolument intrinsèque. Les lieux sont les mêmes. Et donc, vous avez cet univers-là qui fascine beaucoup Casanova, parce que, comme tous les aventuriers, il est dans le grand coup. Et puis, il y a cet aventurier majeur qui va marquer toute la France du XVIIIe siècle, et qui va, par beaucoup d'aspects, être une puissance de dissolution énorme des sociétés d'ordre. C'est John Law, qui a fondé la première Banque de France, la première compagnie du Mississippi, qui est un véritable aventurier et qui a lancé tout ce système-là.
Qui disait qu'on pouvait faire de l'or avec du papier.
Et voilà, il dit j'ai trouvé le secret de la pierre philosophale, c'est de faire de l'or avec du papier. Pourquoi ? Parce qu'il lance le premier système de papier-monnaie en France avec un succès phénoménal. Ça désendette complètement l'État sous la Régence, mais c'est aussi le premier grand crash boursier. Et évidemment, c'est un grand scandale. C'est ce que le sage raconte dans Turcaret. Des valets qui font fortune, de grandes fortunes antiques qui sont ruinées. C'est de la dynamite pour les sociétés d'ordre.
Donc faire de l'or avec du papier, c'est le rêve ultime pour Casanova.
Casanova, c'est un philosophe. Et quand on dit philosophe, il est à la fois dans le philosophique et le philosophal. Donc il y a toujours ce rêve alchimique de, effectivement, avoir le secret de l'or.
Mmh. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a chez Casanova, dans tous les domaines de sa vie, une propension à la dépense, donc tout type de dépense, la dépense physique mais aussi la dépense d'argent, et puis le goût du risque. Et c'est ça finalement qui fait l'unité de toute la vie de Casanova.
C'est ma thèse. L'idée, c'est que l'aventurier, à toutes les époques, mais Casanova est une incarnation de ça. C'est une figure de projection du risque. C'est une manière de, pour une société, de se saisir de cette problématique et de dire comment est-ce qu'elle le perçoit. Et au XVIIIe siècle, on est dans un moment charnière. Le risque, c'est à la fois encore le risque antique, le risque épique, l'ordalie, l'épreuve de Dieu. Hein, on va se soumettre comme ça à la force du destin. Et puis en même temps, c'est le risque calculé. On va commencer à calculer les probabilités, à mesurer, à quantifier. Casanova dit dans l'histoire de ma vie que je suis un philosophe qui calcule. Et c'est exactement ça. Le côté calculateur et le côté philosophe, aussi au sens libertin, au sens d'Horace, au sens hédoniste. Mmh.
Donc il y a un certain nombre d'activités financières, spéculatives de Casanova, Guillaume Simian. On va pouvoir les détailler aussi en particulier dans la seconde partie. Mais avant cela, pourquoi finalement a-t-on si peu étudié cet aspect de Casanova? On a l'impression que c'est le libertin, et évidemment un peu l'écrivain, qui emporte tout du mythe de Casanova.
C'est une très bonne question. Quand on a découvert dans les années 1830 les mémoires de Casanova, on est dans une société extrêmement répressive, qui a beaucoup régressé du point de vue de la liberté de parler de sexualité par rapport au XVIIIe siècle. Et donc, c'est une bombe, c'est de la dynamite, c'est les liaisons dangereuses en vrai, en quelque sorte. Et donc, les gens, dans ce contexte un peu puritain, sont très fascinés par ça, et ils ne voient en réalité que ça. Or, quand on regarde ce que sont les mémoires de Casanova, c'est peut-être la dimension amoureuse érotique, c'est peut-être un tiers du volume de texte. Tout le reste, il raconte ce qu'il voit, ce qu'il entend, les grands personnages qu'il a pu croiser, et aussi ce qu'il fait pour vivre. Et là-dedans, on trouve plusieurs dizaines, peut-être plus d'une centaine de pages sur la vie économique.
Et vous dites que parfois c'est même un peu barbant, entre guillemets, oui, et que c'est pas toujours facile à lire.
C'est-à-dire que quelqu'un qui aborde Casanova et qui se dit « je vais trouver du libertinage, de l'échelle de soi et voilà des scènes de boudoir », qui s'aperçoit qu'il explique ce qu'on appelle aujourd'hui le business model de sa fabrique d'étoffes à Paris, est un peu étonné, oui, ça c'est sûr. Mais c'est la complexité du personnage, c'est quelqu'un qui veut faire tout ce qui marche dans son siècle. Il voit que au XVIIIe siècle, des gens comme Oberkampf font un immense succès dans la manufacture, ils font fortune, ils ont la faveur de la cour, il se dit pourquoi pas moi, ça pourrait être génial.
Mais alors à quel moment est-ce qu'on va s'intéresser un peu plus à cet aspect? D'ailleurs on s'y intéresse peut-être encore pas beaucoup, puisque à part vous, il n'y a pas tellement de chercheurs.
À part moi, il y a eu un article en 1930 et c'est tout pour l'instant. Donc
si un
futur thésard nous écoute, il peut tout à fait se lancer. Non, c'est très intéressant, mais parce que pourquoi aussi on a ce problème-là? Parce qu'on relie Casanova à travers le filtre du 19e siècle. Et le 19e siècle a posé ses catégories. Vous avez la figure de la bohème, par exemple, et la bohème, elle est antinomique aux intérêts, disons, bourgeois, matériels, concrets. Au 18e siècle, les gens ne raisonnent pas vraiment comme ça. On peut être un bohémien, comme Casanova, si on veut, et être investi comme ça dans la vie économique et la réflexion économique.
Et encore aujourd'hui, on ne peut pas associer le grand écrivain avec l'entrepreneur, avec le financier, ça n'est pas acceptable.
C'est très compliqué. Il faut d'abord se souvenir qu'au XVIIIe siècle, il n'y a aucun système de protection du droit d'auteur. Si on veut vivre comme auteur, il faut avoir une autre activité. Et donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Un aventurier qui est parfois proche de Casanova, qui est un ami ennemi qui s'appelle Ange Goudard, qui est bien oublié aujourd'hui, mais qui est de quelque importance. Ses modes de vie, c'est un économiste, il écrit des essais importants sur l'économie, et il vit des charmes de sa femme et de la tricherie au jeu. C'est ça, les aventures du XVIIIe siècle.
Allez, on va continuer de parler d'un Casanova entrepreneur, financier, un petit peu filou aussi. On va le voir en seconde partie de cette émission, mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique de Mayalen Berasategui.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mayalen Berasategui du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous Mayalen.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui de La Révolte de Madame Mongeant. C'est un livre d'Arlette Farge. Madame Mongeant qui était une libertine, une révoltée contemporaine de Casanova. Pouvez-vous nous en dire plus sur elle, Mayalen ?
Alors en fait, Madame Mongeon, c'est une couturière qui travaille avec son mari, qui est tailleur à Paris. Et Arlette Farge a retrouvé le journal de Monsieur Mongeon dans les archives judiciaires et elle a décidé d'en tirer un bouquin. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on est en 1775 et Madame Mongeon va chez son père à Gisors en vacances. Et chez son père, elle découvre le libertinage et quand elle rentre à Paris, elle dit à son mari « Écoute, je veux plus travailler, c'est toi qui es l'homme, c'est toi qui dois gagner de l'argent pour deux. » Donc elle commence à avoir des amants avec lesquels elle va en fiacre à la Comédie, elle donne des très grands dîners à base d'huîtres et de très bon vin. Bref, elle mène un train de vie qu'elle ne peut pas se permettre et qui est en fait une imitation des usages de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie.
Alors évidemment, on se demande comment réagit le mari.
Le mari est désespéré parce qu'il est très conscient qu'ils ne vont pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Il est conscient qu'ils ont deux filles qui du coup sont un peu laissées pour compte et il est très attaché à sa femme. Donc la famille de sa femme lui dit « Mais fais-la enfermer, on a deux autres gamines à marier, tu vas nous pourrir la réputation de tout le monde. » La police lui dit « Non, mais on ne demande pas une lettre de cachet pour ça, donc vous êtes bien gentil, mais vous vous arrangez. » S'il fait une séparation de biens, il a peur de perdre sa réputation et donc de perdre ses clients, donc il est complètement coincé. On ne sait pas comment l'histoire a fini, parce qu'on n'a pas le reste des archives, mais ça mérite vraiment d'être lu. C'est une espèce de sous-sous-sous Casanova, et comme Casanova, elle se trouve assez vite confrontée à des murs, en fait, dans cette société d'ordre. Et donc, Arlette Farge montre très bien pourquoi Madame Mongeon choisit certaines pratiques, à qui est-ce qu'elle veut ressembler, à qui est-ce qu'elle ne veut pas ressembler, et toute la diversité des réseaux qui sont en jeu, qui vont de la toute petite domesticité à l'assez grande bourgeoisie.
Alors vous pourriez peut-être nous lire un extrait de ce texte durant lequel Monsieur Mongeon est provoqué en duel par l'un des amants de sa femme.
C'est ça, donc là Monsieur Mongeon s'énerve et il dit « On n'a jamais vu une femme qui se pique d'être honnête préférer la compagnie d'un polisson de Richer à son mari. Et comme je vais pousser la porte, les voilà tous deux, et Richer qui fonde sur la porte en me disant que c'est moi qui étais un polisson et un gredin, qu'il m'apprendrait à vivre, et après mille horreurs et sottises, me dit de me trouver le lendemain à 8h au café de foie au Palais Royal, qu'il me couperait les oreilles, ma femme poussait le diriger pour qu'il se taise, et je leur dis que je me trouverais et je leur fermais la porte au nez, je rentrais dans la chambre et dis à ma femme...
Pardon. Comme vous lisez évidemment sur un tout petit téléphone.
Mais oui, c'est mon petit téléphone qui marche bien d'habitude. Voilà pour votre belle conduite à quoi vous m'exposez, à me couper la gorge avec des polissons. Elle me dit que j'étais trop plat pour me battre.
Merci beaucoup Maïlène Berasategui, La révolte de Madame Mongeon par Arlette Farge. C'est aux éditions Albin Michel, à bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Simian qui nous parle d'un Casanova entrepreneur, financier, aventurier et assez filou, comme par exemple dans son rapport avec Madame Durfé, femme riche mais un brin naïve.
Je possédais, selon elle, non seulement la pierre philosophale, mais le colloque avec tous les esprits élémentaires. Elle me croyait par conséquent maître de bouleverser toute la terre, de faire le bonheur ou le malheur de la France, et elle n'attribuait la nécessité où j'étais de me tenir caché qu'à la juste crainte que je devais avoir d'être arrêté ou enfermé, car cela, selon elle, devait être immanquable. Ces extravagances venaient des révélations que son génie lui faisait pendant la nuit et que sa fantaisie exaltée lui faisait croire réelle. Elle me dit un jour que son génie l'avait convaincue qu'étant femme, je ne pouvais lui faire obtenir le colloque avec les génies, mais que je pouvais, moyennant une opération qui devait m'être connue, la faire passer en âme dans le corps d'un enfant mâle, né d'un accouplement philosophique d'un immortel avec une mortelle, ou d'un mortel avec un être femelle de nature divine. Si en vrai honnête homme je lui avais dit que toutes ces idées étaient absurdes, elle ne m'aurait pas cru. Ainsi, j'ai pris le parti de me laisser aller. Elle me dit plusieurs fois qu'elle était prête à donner tout ce qu'elle avait pour devenir homme, et qu'elle savait que cela dépendait de moi. Nous passâmes 3 semaines à faire les préparatifs nécessaires à cette divine opération. Et ces préparatifs consistaient à rendre un culte particulier à chacun des génies des 7 planètes au jour qui leur sont consacrés. Après ces préparatifs, je devais aller prendre dans un lieu qui devait m'être connu par l'inspiration des génies, une vierge, fille d'adepte, que je devais féconder d'un garçon par un moyen connu des seuls frères Rose-Croix. Ce fils devait naître vivant. Madame Durfé devait le recevoir dans ses bras à l'instant où il viendrait au monde et le garder 7 jours auprès d'elle dans son propre lit. Au bout de ces 7 jours, elle devait mourir, en tenant sa bouche collée à celle de l'enfant, qui par ce moyen recevrait son âme. Après cette permutation, dès que l'enfant aurait atteint sa 3e année, Madame Durfé devait se reconnaître. Et alors je devais commencer à l'initier dans la connaissance parfaite de la grande science.
Plus c'est gros, plus ça passe, avec Casanova dans cet extrait d'Histoire de ma vie lu par Guillaume Gallienne. Que vous inspire ce passage, Guillaume Signon ?
Je trouve que c'est une belle lecture parce qu'on sent bien ce qui pour moi est la double nature de ce passage. Casanova a très clairement un sourire en coin et dans une connivence avec le lecteur en disant « Mais regardez ce que j'ai fait avaler à cette pauvre Madame Durfé, c'est inimaginable. » Et en même temps, dans la précision et le temps qu'il met à décrire chaque étape, sa signification alchimique, il y a quelque chose aussi de l'ordre du poétique. Fondamentalement, l'alchimie, c'est ça, c'est une explication poétique du monde. Les hommes du XVIIIe siècle n'auraient pas forcément dit les choses comme ça, mais il y a de ça. Et il est toujours un peu ambigu avec ça, donc 90% escroc et 10% poète peut-être.
Alors plus prosaïquement, il a fait avec Madame Durfé des transactions financières.
Tout à fait. Madame Durfé, très riche aristocrate. Casanova, quand il la rencontre, a l'impression que c'est la providence qui la met sur son chemin, son bon génie, parce que elle est richissime et elle cherche un alchimiste en réalité. Et Casanova, qui est prêt à être tout ce qu'on veut pourvu qu'on lui fasse passer un temps agréable et qu'on l'entretienne aussi, est tout prêt à être l'alchimiste de Madame Durfé. Donc lui qui avait déjà commencé un petit peu à travailler cette alchimie avec ses protecteurs vénitiens, rejoue la même escroquerie, on peut dire, ou la même partition avec Madame Durfé, qui est indétrompable de son point de vue de toute façon.
Alors il y a notamment un voyage en Hollande que peut-être vous pouvez nous raconter.
Alors oui, le voyage en Hollande, c'est pas directement l'escroquerie alchimique de Madame Durfé. Il utilise plutôt le réseau Durfé pour se faire remettre une mission de spéculation financière. En gros, la France est dans une mauvaise passe financièrement, sa dette est mal cotée, et donc on l'envoie en Hollande pour essayer de lever des fonds pour que la France, qui est en guerre à ce moment-là, puisse continuer à se financer. Donc ça fait partie des moments où il a pu avoir la confiance d'un ministre grâce à ses puissantes protectrices. Et donc il va rencontrer tout cet univers de la finance dont il va faire un tableau assez savoureux d'ailleurs, mais auquel il n'arrivera pas vraiment à s'intégrer. Lui le raconte à sa manière en disant qu'il y a une belle histoire d'amour et que finalement il ne peut pas s'attacher et qu'il doit repartir à Paris, mais c'est aussi une rencontre manquée. Mais là aussi vous avez des pages et des pages sur la négociation des obligations françaises, pas forcément un truc qu'on attend les morts de Casanova a priori.
Et donc une description du milieu de la finance de l'époque dans lequel il donne l'impression de naviguer comme un poisson dans l'eau.
Comme un poisson dans l'eau, mais Casanova il est comme un poisson dans l'eau dans tous les milieux. Une anecdote de ce type-là, il se rend à Berlin pour rencontrer Frédéric II. Et dans sa besace, il a un projet de réforme fiscale, parce qu'il sait que Frédéric II travaille là-dessus à ce moment-là. Frédéric II, qui n'est pas insensible au charme du beau vénitien, lui propose d'aller se promener dans les jardins de Sanssouci, et dans le jardin, il y a une très jolie fontaine. Casanova, pour faire son compliment, faire sa cour, lui dit « Magnifique fontaine, sire !» Et donc là, Frédéric II, qui n'a pas trop fait attention à quelle était la fonction de Casanova, lui dit « Ah, vous êtes architecte hydraulique, alors ?» Et Casanova dit « Bah, oui !» Il n'a aucune idée de tout cela, mais bon, il a vu d'autres fontaines, il a des idées, il a de l'expérience, et donc il s'improvise complètement et propose sur le champ, comme ça, à Frédéric II, un plan de réorganisation des fontaines de Sanssouci. Exceptionnel, mais voilà, c'est l'éthos de l'aventurier.
Ce qui fait aussi qu'il se débrouille si bien dans ce milieu du boursicotage, c'est qu'il en a le vocabulaire. Il est précis pour le coup, alors il connaît peut-être pas le vocabulaire pour ce qui concerne les flux dans les fontaines.
Il a dû avoir plus de mal, effectivement.
Mais en revanche, ce qui concerne l'agiotage, ça, il a la langue.
Il aime... Enfin, ça n'est pas lui faire offense que de dire qu'il aime l'argent. Il n'aime pas le thésauriser, il dépense toujours tout ce qu'il gagne tout au long de sa vie. Mais effectivement, c'est un univers qu'il fascine. Et donc, comme il est à la recherche d'argent pour vivre, pour se payer ses fantaisies, ben, il va essayer d'aller au plus près de la source. Et la source à l'époque, ce sont les États, c'est la loterie, c'est le jeu.
Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a quelque chose de très aristocratique dans sa manière d'envisager le rapport à l'argent. C'est un argent qui vous permet de ne pas avoir à vous soucier de l'argent.
Et oui, il y a quelque chose d'assez paradoxal parce que dans cette c'est un vrai entrepreneur, Casanova. Il propose donc des projets de loterie, on en a parlé, mais aussi des projets industriels. Il propose une fabrique de savon à Varsovie. Il propose, fait tout un projet pour le gouvernement espagnol pour peupler des montagnes qui sont inhabitées. Enfin, c'est inimaginable. Une fabrique de teinture aussi. Et bon, il se lance comme ça. On pourrait considérer que ce sont des valeurs très bourgeoises, ces valeurs entrepreneuriales qui émergent au milieu du XVIIIe siècle. Mais lui le fait pour nourrir son mode de vie qui est totalement aristocratique.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de dégoût, entre guillemets, du peuple dans cette envie de repousser absolument le travail, de repousser tout ce qui est trop difficile, tout ce qui est trop dur, et ce qui est en fait le lot quand même de la plupart des gens?
Il y a, à mon avis, indéniablement, des éléments de complexe du parvenu chez Casanova, qui on ne déteste bien le peuple que quand on en vient. Et Casanova, c'est exactement ça. Il vient du peuple, comédien à Venise, c'est clairement pas les strates supérieures de la société pour ses parents. Et donc, oui, il a cette hostilité vis-à-vis du peuple qui, pour lui, est un élément de distinction. En tout cas, le pense-t-il. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Hein. Les aristocrates ne sont pas dupes quand ils les rencontrent. Ils le trouvent amusant, intéressant, mais il n'est jamais considéré comme l'un des leurs. Mais vous avez cet aspect-là, oui.
Avec une partie de sa fortune gagnée en Hollande, parce qu'il y aura quand même des moments où ça va bien se passer pour Casanova, on peut les raconter si on a un petit peu le temps. Il va donc créer ses manufactures, et la première c'est en France, c'est ça Guillaume Simion ?
Tout à fait. Il va avoir une bonne période quand il va être à Paris. Deux choses vont faire sa fortune. D'abord, c'est le fait qu'il soit impliqué dans la création de ce qui va devenir la Loterie Nationale Française. Louis XV a besoin d'argent pour faire un hôpital pour ses soldats blessés. Il a entendu parler de cette nouvelle technique de la loterie, il serait prêt à expérimenter. Et donc tout un tas d'aventuriers se précipitent à Paris avec dans leur portefeuille des projets, et notamment Casanova et un autre Italien qui s'appelle Calzabigi.
Donc ce n'est pas tant qu'il a eu l'idée avant les autres, c'est qu'il a réussi à l'imposer mieux que les autres.
Il a réussi à se trouver un associé qui était un bon entrepreneur, quelqu'un de bien organisé. Et avec Calzabigi, ils ont réussi à imposer leur projet. Et du coup, il va avoir plusieurs bureaux de vente de tickets et ça va être une manne financière énorme pour lui. Il va s'acheter une villa dans l'ouest de Paris, un très bel endroit de toute évidence, qui s'appelait la Petite Pologne. Et il va mener grand train avec un cuisinier, des chevaux, un carrosse, dépenser beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il gagne, mais ça fonctionne.
Il sait comment trouver de l'argent, enfin en tout cas à ce moment-là, mais il ne sait pas forcément comment le garder et sur la durée l'investir.
Surtout, ça ne l'intéresse pas tellement. Il aime bien l'idée d'être entrepreneur, mais pour l'être vraiment, c'est pas son truc. Quand il a cet argent, il va essayer de se dire, voilà, les manufactures, ça fonctionne bien. J'ai rencontré des gens qui étaient proches de cet univers-là, notamment Ange Goudard. J'ai peut-être eu entre les mains des secrets de teinture via Venise qui seraient arrivés de l'Orient.
C'est beaucoup sur la question justement du secret que tiennent à l'époque l'avantage des entrepreneurs en particulier dans la teinturerie, parce qu'on ne sait pas faire ça très bien.
Exactement. L'industrie, la seule vraie industrie, proto-industrie à l'époque, c'est le textile. Et on a un problème de balance commerciale à l'époque, et cette balance commerciale, elle est déficitaire vis-à-vis de l'Inde, d'où on importe des étoffes qui ont un succès phénoménal, ces fameuses indiennes, qui sont des étoffes peintes qu'on ne sait pas faire en Occident. Et donc vous avez une compétition entre États pour mettre en place une manufacture d'indiennes locales qui pourrait ensuite exporter en Europe. Et Casanova se dit, moi j'ai peut-être moyen de le faire, je vais peut-être y arriver. Et donc il crée à Paris, donc dans l'enclos du Temple, qui à l'époque est une sorte de zone franche, une zone non soumise aux impôts qu'on paye ailleurs, il crée une fabrique où il engage comme ça une vingtaine d'ouvrières, et il nous raconte, Casanova égal à lui-même, que petit à petit il les trouve charmantes et qu'il commence à leur faire des cadeaux, alors d'abord des bijoux, et puis ensuite des maisons, et puis ensuite, voilà, il n'y a plus de fabrique.
Alors évidemment, donc nous, il est perdu par les femmes, alors.
Il est totalement perdu par les femmes.
Alors, si l'on peut dire, c'est peut-être l'inverse aussi.
Alors, il dit qu'il est perdu par les femmes. Alors évidemment, nous, ça nous choque aussi un petit peu, parce qu'il y a ce rapport hiérarchique quand même qu'il passe complètement sous le tapis. Mais voilà, il nous raconte ses cadeaux, et il nous dit, voilà, j'ai fait tellement de cadeaux à mes ouvrières, qui étaient toutes devenues aussi plus ou moins mes amantes. C'est donc plus une manufacture, c'est une sorte de harem, qu'il nous décrit, que je n'avais plus d'argent et que j'ai fait faillite. En réalité, on pense qu'il a fait une faillite frauduleuse. Il avait tellement dépensé qu'il a feint un vol. Il a fait vider les entrepôts pour escroquer son associé de l'époque, et que cette faillite frauduleuse va, en dernier ressort, entraîner sa fuite de Paris, parce qu'on l'a repéré et il est perdu de réputation.
Donc globalement, ça ne va pas tellement marcher, toutes les expériences successives de Casanova, pour devenir un businessman, un entrepreneur.
Non, parce que il a ce rêve de la reconnaissance, donc c'est ok entrepreneur parce que c'est à la mode à l'époque, mais ça pourrait être autre chose. Et donc il essaye, mais ça ne fonctionne jamais. Pourquoi ? Parce que l'aventurier, il a ce rêve du grand coup, mais le coup n'est jamais assez grand. C'est-à-dire que sa villa ne lui suffit pas, il faudrait quelque chose qui est plus grand que le monde en réalité. C'est la poursuite des cités d'or, c'est sans fin.
Il y a peut-être aussi le fait qu'il a quand même quelques angles morts dans sa stratégie, dans son business plan, dirait-on, oui, aujourd'hui. Par exemple.
C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'énergie et de bonne volonté. On a l'impression dans les pages qu'il consacre à cet épisode dans l'histoire de ma vie qu'il se justifie, il refait pratiquement ses comptes. Et donc il disait, alors voilà, si je vends tant par semaine et que j'ai tant de frais, je devrais m'en sortir, avoir un besoin en fonds de roulement. Enfin, c'est vraiment inattendu quand on a cette image d'Épinal de Casanova. Mais si vous voulez, ça n'est pas un gestionnaire.
Notamment, il ne sait pas prendre en compte l'idée du marché. L'étude de marché, c'est quelque chose qui n'arrive pas jusqu'à lui.
Non, il essaye, il est plein de bonne volonté, il a compris comment ça fonctionnait. Mais vous savez, c'est toujours ce double rapport au risque des aventuriers. Il y a ce risque, ça c'est le Casanova qui quantifie, qui nous fait 20 pages de business plan dans l'histoire de ma vie. Mais à un moment donné, il finit toujours par bifurquer vers cette vieille, archaïque modalité de rapport au risque qui est Lord Ali. C'est-à-dire, à un moment donné, il joue, il calcule, et puis d'un seul coup, il va dire « Ok, je mets tout mon argent sur une seule carte, et si je perds, je perds, et si je gagne, c'est le fameux grand coup. » Et là, c'est à nouveau exactement ça. Il fait la même chose au jeu, il fait la même chose en entrepreneur.
Donc il est flamboyant, en réalité.
Flamboyant, et même disons le flambeur, c'est un flambeur.
Alors, de la même manière qu'il va rédiger des traités historiques, presque géopolitiques sur la Pologne, il oublie que, quand il y a une guerre, l'activité économique peut s'en trouver réduite, et exactement, ça va précipiter aussi la chute d'autres entreprises qu'il a initiées.
Voilà, il avait aussi cet espoir de pouvoir exporter, un peu irréaliste déjà au départ, mais effectivement, se lancer en pleine guerre, c'est pas le moment, les frais somptuaires sont réduits, donc il y a toujours cette part d'irrationnel qui le rattrape.
Est-ce qu'on a aujourd'hui des documents qui nous permettent d'aller vraiment au plus près de ces moments-là ? Peut-être a-t-on conservé des étoffes aussi ? Est-ce que vous avez pu retrouver
génial.
Ça ?
Malheureusement, non. Et il y a un petit trésor pour les chercheurs férus d'archivistique, c'est que sans doute les papiers notariés de Casanova, businessman, sont quelque part dans les archives, mais comme tout a été bouleversé à la Révolution, c'est un travail phénoménal, et tous les érudits du 19e siècle qui s'y sont penchés n'ont rien retrouvé. Mais peut-être qu'un jour, on retrouvera effectivement les papiers de l'entreprise de Casanova, ce qui serait vraiment, vraiment piquant, vraiment amusant.
C'est un appel que vous lancez encore une fois aux jeunes doctorants.
Exactement, allez-y, passez votre temps dans les archives, c'est génial.
Musique. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons toujours d'un Casanova inattendu avec vous, Guillaume Simian. Ce Casanova entrepreneur et financier qui arrive bien à duper son monde. Comment expliquez-vous, et peut-être le comprend-on par d'autres aspects de sa vie, qu'il ait justement réussi comme ça à duper aussi facilement, semble-t-il, plusieurs types de personnes finalement qu'il a croisées sur son chemin?
Oui, vous savez, c'est une grande aristocrate européenne qui disait à la cour, peu importe qu'on nous trompe, pourvu qu'on nous trompe bien. Et il y a de ça. Fondamentalement, cette Europe qui périt d'ennui par beaucoup d'aspects, qui s'adonne au jeu parce qu'elle s'ennuie, quand elle voit apparaître, surtout dans des cours provinciales, il y a une très belle page de Stefan Zweig là-dessus, dans Trois poètes de leur vie, Tolstoï, Stendhal et Casanova, qui est un de ses ouvrages. Ben voilà, une petite cour provinciale qui voit arriver un Casanova avec son chapeau à plumes, son costume chamarré, des histoires invraisemblables, de la magie, etc. Mais il réenchante le monde. C'est exactement ça. Quand on lisait le petit passage sur Durfay tout à l'heure, c'est Casanova, il vit dans un enchantement.
Ce que disait Simmel aussi, les aventuriers paient leur dette par le plaisir ou l'honneur qu'ont leurs créanciers de les fréquenter.
Exactement. En fait, ce travail de réenchantement, cette aile du merveilleux qu'on retrouve très souvent dans le texte de Casanova, qui voisine toujours avec le cynisme, eh bien, rien que ça, ça a une valeur et certains sont prêts à perdre de l'argent pour ça, parce que de l'argent, ils en ont déjà beaucoup et du rêve, ils en ont pas.
Ça rappelle des développements contemporains avec des noms que on ne va pas citer, mais que les auditeurs auront peut-être en tête. Il y a aussi quelque chose d'assez charmant finalement chez Casanova, c'est ce sentiment qu'il cherche toujours à duper certes, mais jamais à faire de mal, ou à duper sans réellement froisser.
Il essaye toujours de ne pas aller trop loin dans cette direction. Il va très loin à propos de Madame Durfay, d'ailleurs un de ses héritiers le gifle publiquement parce qu'il considère qu'il a volé son héritage, mais il y a une volonté tout de même de respecter, de ne pas aller trop loin. Par exemple, Casanova ne sera jamais un tricheur au jeu ouvert à échelle industrielle comme peut l'être son ami ennemi Goudard. Il va être beaucoup plus prudent que ça parce qu'il sait que escroquer les gens, ça fait rire. Tricher au jeu au XVIIIe siècle, on ne plaisante pas avec ça.
C'est la prison, il connaît, donc il n'y a peut-être pas très envie de
retourner. La prison, voire la corde, parce que voilà. Et puis c'est une atteinte à l'honneur. Et ça, Casanova ne veut pas y toucher, c'est son crédit.
Est-ce qu'il y a de l'amertume dans la dernière partie de la vie de Casanova, qui terminera, on le sait, comme bibliothécaire, non pas comme grand capitaine d'industrie?
Il y a, oui, beaucoup d'amertume. Il y a le sentiment d'un échec profond, je pense. Et c'est ce sentiment d'échec, vous en avez parlé lundi d'ailleurs, qui va être à l'origine de l'écriture de l'histoire de ma vie. C'est pratiquement une prescription médicale. En tout cas, c'est comme ça qu'il présente les choses. Il va essayer tout le temps, jusqu'à la fin de ses jours, de trouver un emploi, de devenir alors secrétaire ou conseiller. Donc il va aller à Vienne, il va aller à Berlin, mais ça ne va jamais fonctionner. Et vous avez cette dernière phase de sa vie qui n'est pas racontée dans l'histoire de ma vie, mais qu'on découvre par sa correspondance. Il est de retour à Venise, il s'est installé avec une femme, ils vont vivre ensemble pendant 10 ans, et il est à la fois content d'être de retour de Venise, mais en même temps dans cette immense frustration, et il rêve d'être autre chose. Il y a une très belle lettre que j'aime beaucoup de 1785, où il raconte, il est à Vienne et il dit, il paraît qu'ici on a fait voler un ballon, une montgolfière, et les gens se sont élevés dans le ciel. Et il écrit à sa compagne à Venise, et il dit, mais peut-être que je monterai aussi et que je sauterai par-dessus les Alpes pour vous retrouver. C'est une autre époque. L'époque des frères Montgolfier, c'est déjà plus l'époque de Casanova. Mais il voit ça, ce voyage lointain, et il est fasciné parce que c'est l'essence de l'aventure à nouveau.
C'est vrai que ça donne un petit peu une couleur plus sombre à l'image de Casanova. C'est pas tellement celle qu'on a d'ordinaire, mais s'il a réussi à accéder à tous les plaisirs, depuis la table jusqu'au plaisir de l'amour, probablement que dans sa vie, il y a eu cette espèce de besoin de reconnaissance qui n'a jamais été réellement accompli.
C'est un peu la thèse que défend visuellement Fellini dans le Casanova. C'est l'idée que effectivement, il y a sa mère, cette comédienne brillante qu'il a négligée, qui ne s'est pas du tout occupée de lui quand il était petit, et donc que tout ça, cette volonté de paraître, ses costumes, ses chaînes de montres, ses cols fichés, tout ça, c'est une manière d'attirer l'attention pour compenser le déficit d'attention maternelle. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? À mon sens, pas grand-chose. Fellini dit qu'il détestait Casanova. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça va au-delà. Il dépasse son temps, il dépasse l'individu aussi qu'il est.
Et de Fellini et Casanova, nous parlerons probablement demain avec notre invité qui sera Chantal Thomas. Merci beaucoup Guillaume Simion. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du livre Casanova dans l'Europe des aventuriers, paru en 2017 chez Classique Garnier. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean-Frédéric. Demain, je l'ai dit, c'est la suite et la fin de notre semaine consacrée à Casanova avec Chantal Thomas. Elle nous parlera notamment de l'épisode de La Charpillon et puis aussi de son rapport à Paris, le rapport de Casanova à la capitale française. Tout de suite, c'est la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous sommes avec Jérôme Leroy, nager vers la Norvège. Tiens, c'est une allitération. Je dis ça, mais il nous dépayse en France, entre mélancolie et coup d'œil ajusté. J'aime, c'est le poème La façade du cinéma Éden à la souterraine, poème politique à mes camarades Michel, Jean-Claude et Valentin. J'aime les plages, les fantômes, les petites villes d'importance secondaire, les bouquinistes, les terrasses de café, lire des poètes vivants dans des hôtels 2 étoiles près des gares, les jeunes filles à bicyclette qui roulent sur des allées gravillonnées, les huîtres, le communisme, le vent dans les arbres, les mèches qui retombent des chignons faits à la hâte, l'appropriation collective des moyens de production, le muscadet amphibolite de Jolandron, lire des poètes oubliés dans des poètes d'aujourd'hui, d'occasion, les hêtres qui bordent d'une lumière verte les départementales de Seine-Maritime quand on approche de la mer l'été, les chats, le thé noir très noir, les films italiens, la façade du cinéma Éden à la souterraine. Mais je suis bien obligé de constater, à la lecture des différents programmes, que mes revendications sont assez peu prises en compte, assez peu vraiment. Jérôme Leroy. Mais alors, vous me direz, vous n'avez pas de comice agricole aujourd'hui? Non, pas tous les jours. Mais si, par association de pensée, on a un extrait de discours, ou plutôt de pamphlet, de Jacques Lang, un ministre aussi. Ouvrons les yeux. Ça nous est venu à la lecture du poème de Jérôme Leroy, Je suis français, par une certaine aptitude à la mélancolie, par le goût de la distance, par les toits de l'Auze en Corrèze, par les colombages des longères du pays de Caux, par des désirs fous de révolution et d'égalité. Aujourd'hui, nous dit Lang, la France des pavillons sans charme est une réalité. Dans un pays aux 1000 nuances, de la brique, du colombage, du granit, du schiste, du pisé, du tuffeau, du calcaire, du grès, du basalte, de la meulière, des ardoises, des lauzes, de la chaume, des tuiles plates, tuiles creuses, tuiles canales, tuiles en écailles, tuiles rondes, nous avons laissé s'installer partout les mêmes lotissements, à peu de différence près. Ça rythme, son texte, il y a de la poésie là-dedans, non? Aux abords des plus grandes villes comme des petits villages de campagne, il dessine le visage d'une autre France, très justement décrite par Olivier Adam dans « À l'abri de rien ».« À l'abri de rien ». Nous sommes si nombreux à vivre là, constate l'héroïne au début du roman, des millions. De toute façon, ça n'a pas d'importance, tous ces endroits se ressemblent. Ils en finissent par se confondre. D'un bout à l'autre du pays, éparpillés, ils se rejoignent, tissent une toile, un réseau, une strate, un monde parallèle et ignoré. Millions de maisons identiques aux murs crépis de pâle, de beige, de rose, millions de volets peints s'écaillant, de portes de garage mal ajustées, de jardinets cachés derrière, balançoires, barbecue. Ouvrons les yeux, dit Jacques Lang.
Voilà un bon slogan. Jacques Bonafé qui nous lit cette semaine des extraits de poèmes autour du livre « Nager vers la Norvège » de Jérôme Leroy.